Chapitre 18. Le lendemain du jour où il avait vomi de si furieuses imprécations sur le tribunal, Gilles de Rais comparut de nouveau devant ses juges. Il se présenta la tête basse et les mains jointes. Il avait une fois de plus bondi d'un excès à un autre, quelque heure avait suffi pour assagir l'énergumène, qui déclara reconnaître les pouvoirs des magistrats et demanda pardon de ses outrages. Ils lui affirmèrent que, pour l'amour de notre Seigneur, ils oubliaient ses injures et, sur sa prière, l'évêque et l'inquisiteur rapportèrent la sentence d'excommunication dont il l'avait frappé la veille. Cette audience, d'autres, furent occupées par la comparution de Prélati et de ses complices. Puis, s'appuyant sur le texte ecclésiastique, qui atteste ne pouvoir se contenter de la confession si elle est dubia, vaga, generalis, illativa, iocosa, le promoteur assura que pour certifier la sincérité des aveux, Gilles devait être soumis à la question canonique, c'est-à-dire à la torture. Le maréchal supplia l'évêque d'attendre jusqu'au lendemain et réclama le droit de se confesser tout d'abord au juge qu'il y plairait au tribunal de désigner, jurant qu'il renouvellerait ensuite ses aveux devant le public et la cour. Jean de Malestroit accueillit cette requête et l'évêque de Saint-Brieuc et Pierre de l'Hospital, chancelier de Bretagne, furent chargés d'entendre Gilles dans sa cellule. Quand il eut terminé le récit de ses débauches et de ses meurtres, ils ordonnèrent qu'on amenât Prélati. À sa vue, Gilles fondit en larmes, et alors qu'après l'interrogatoire on s'apprêtait à reconduire l'Italien dans sa geôle, il l'embrassa, disant « Adieu, François, mon ami. Jamais plus nous ne nous entreverrons dans ce monde. Je prie Dieu qu'il vous donne bonne patience et connaissance, et soyez certain, si vous avez bonne patience et espérance en Dieu, que nous nous entreverrons en grande joie de paradis. Priez Dieu pour moi, et je prierai pour vous. » Et il fut laissé seul pour méditer sur ses forfaits qu'il devait avouer publiquement à l'audience le lendemain. Ce fut ce jour-là le jour solennel du procès. La salle où siégeait le tribunal était comble et la multitude refoulée dans les escaliers, serpentée jusque dans les cours, emplissait les venelles avoisinantes, barrait les rues. De 20 lieues à la ronde, les paysans étaient venus pour voir le mémorable fauve dont le nom seul faisait, avant sa capture, clore les portes dans les tremblantes veillées où pleuraient tout bas les femmes. Le tribunal allait se réunir au grand complet. Tous les assesseurs qui d'habitude se suppléaient pendant les longues audiences étaient présents. La salle, massive, obscure, soutenue par de lourds piliers romains, se rajeunissait à mi-corps, s'effilait en ogive et lançait à des hauteurs de cathédrale les arceaux de sa voûte qui se rejoignaient, ainsi que les côtes des mitres abbatiales, en une pointe. Elle était éclairée par un jour d'étain que filtraient au travers de leur résille de plomb d'étroits carreaux. L'azur du plafond se fonçait et ses étoiles peintes ne scintillaient plus à cette hauteur que comme des têtes en acier d'épingle. Dans les ténèbres des voûtes, l'hermine des armes ducales apparaissait confuse dans des écussons qui ressemblaient à de grands dés blancs mouchetés de points noirs. Et soudain des trompettes hennirent. La salle devint claire. Les évêques entraient. Ils fulguraient sous leurs mitres, en drap d'or, étaient cravatés d'un collier de flammes par le collet orphrasé, pavé d'escarboucles, de leurs robes. En une silencieuse procession, ils avançaient, alourdis par leurs rigides chapes qui tombaient en s'évasant de leurs épaules, pareilles à des cloches d'or fendues sur le devant. Et ils tenaient la crosse à laquelle pendait le manipule, une sorte de voile vert. Ils flambaient à chaque pas, ainsi que des brasiers sur lesquels on souffle, éclairaient eux-mêmes la salle en reflétant le pâle soleil d'un pluvieux octobre qui se ranimait dans leurs joyaux et y puisait de nouvelles flammes qu'ils renvoyaient en les dispersant à l'autre bout de la salle jusqu'au peuple muet. Atteints par le ruissellement des orfrois et des pierres, les costumes des autres juges paraissaient plus discords et plus sombres. Les vêtements noirs des assesseurs et de l'official la robe blanche et noire de Jeanne Blouin, les simarres en soie, les manteaux de laine rouge, les chaperons écarlates bordés de pelleteries de la justice séculière, semblaient défraîchis et grossiers. Les évêques s'assirent au premier rang, entourèrent immobile Jean de Malestroit, qui d'un siège plus haut dominait la salle. Sous l'escorte d'hommes d'armes, Gilles entra. Il était défait, hâve, vieilli de 20 années en une nuit. Ses yeux brûlaient dans des paupières rissolées, ses joues tremblaient. Sur l'injonction qui lui fut adressée, il commença le récit de ses crimes. D'une voix sourde, obscurcie par les larmes, il raconta ses raptes d'enfance, ses hideuses tactiques, ses simulations infernales, ses meurtres impétueux, ses implacables viols. Obsédé par la vision de ses victimes, il décrivit leur agonie ralentie ou hâtée, leurs appels et leurs râles. Il avoua s'être vautré dans les élastiques tiédeurs des intestins. Il confessa qu'il avait arraché des cœurs par des plaies élargies, ouvertes, telles que des fruits mûrs. Et d'un œil de somnambule, il regardait ses doigts qu'il secouait, comme pour en laisser goûter au sang. La salle, atterrée, gardait un morne silence, que lacérait soudain quelques cris brefs, et l'on emportait en courant des femmes évanouies, folles d'horreur. Lui semblait ne rien comprendre, ne rien voir, il continuait à dévider l'effrayante litanie de ses crimes. Puis sa voix devint plus rauque. Il arrivait aux effusions sépulcrales, au supplice de ses petits-enfants qu'il cajolait afin de leur couper dans un baiser le cou. Il divulgua les détails, les énuméra tous. Ce fut tellement formidable, tellement atroce, que sous leur coiffe d'or les évêques blêmirent. Ces prêtres trempés au feu des confessions, ces juges qui en des temps de démonomanie et de meurtre avaient entendu les plus terrifiants des aveux, ces prélats qu'aucun forfait, qu'aucune abjection d'essence, qu'aucun purin d'âme n'étonnait plus, se signèrent, et Jean de Malestroit se dressa, et voilà par pudeur la face du Christ. Puis tous baissèrent le front, et sans qu'un mot eût été échangé, ils écoutèrent le maréchal qui, la figure bouleversée, trempée de sueur, regardait le crucifix, dont l'invisible tête soulevait le voile, avec sa couronne hérissée d'épines. Gilles acheva son récit, mais alors une détente eut lieu. Jusqu'alors il était resté debout, parlant comme dans un brouillard, se racontant à lui-même, tout haut, le souvenir de ses impérissables crimes. Quand ce fut terminé, les forces l'abandonnèrent, il tomba sur les genoux et, secoué par d'affreux sanglots, il cria « Ô Dieu, mon Rédempteur, je vous demande miséricorde et pardon ». Puis ce farouche et hautain baron, le premier de sa caste sans doute, s'humilia. Il se tourna vers le peuple et dit en pleurant « Vous, les parents de ceux que j'ai si cruellement mis à mort, donnez-moi le secours de vos pieuses prières ». Alors, en sa blanche splendeur, l'âme du Moyen-Âge rayonna dans cette salle. Jean de Malestroit quitta son siège et releva l'accusé qui frappait de son front désespéré les dalles. Le juge disparut en lui, le prêtre seul resta. Il embrassa le coupable qui se repentait et pleurait sa faute. Il y eut dans l'audience un frémissement lorsque Jean de Malestroit dit à Gilles, debout, la tête appuyée sur sa poitrine, « Prie pour que la juste et épouvantable colère du Très-Haut se taise. Pleure pour que tes larmes épurent les charnies en folie de ton être. » Et la salle entière s'agenouilla et pria pour l'assassin. Quand les oraisons se turent, il y eut un instant d'affolement et de trouble. Exténué d'horreur, excédé de pitié, la foule houlait. Le tribunal silencieux et énervé se reconquit. D'un geste, le promoteur arrêta les discussions, balaya les larmes. Il dit que les crimes étaient clairs et apairs, que les preuves étaient manifestes, que la cour pouvait maintenant, en son âme et conscience, châtier le coupable, et il demanda que l'on fixât le jour du jugement. Le tribunal désigna le surlendemain. Et ce jour-là, l'official de l'église de Nantes, Jacques de Penquédic, lut, à la suite, les deux sentences. La première, rendue par l'évêque et l'inquisiteur, sur les faits relevant de leur commune juridiction, commençait ainsi. Le saint nom du Christ invoqué, nous, Jean, évêque de Nantes, et frère Jean Blouin, bachelier en nos saintes écritures, de l'ordre des frères prêcheurs de Nantes et délégué de l'inquisiteur de l'hérésie pour la ville et le diocèse de Nantes, en séance du tribunal et n'ayant sous les yeux que Dieu seul. Et après l'énumération des crimes, il concluait : Nous prononçons, nous décidons, nous déclarons que toi, Gilles de Ré, cité à notre tribunal, tu es honteusement coupable d'hérésie, d'apostasie, d'évocation des démons, que pour ces crimes tu as encouru la sentence d'excommunication et toutes les autres peines déterminées par le droit. La seconde sentence, rendue par l'évêque seul sur les crimes de sodomie, de sacrilège, de violation des immunités de l'Église, qui était plus particulièrement de son ressort, aboutissait aux mêmes conclusions et prononçait également, dans une forme presque identique, la même peine. Gilles écoutait, tête basse, la lecture des jugements. Quand elle fut terminée, l'évêque et l'inquisiteur lui dirent : Voulez-vous, maintenant que vous détestez vos erreurs, vos évocations et vos autres crimes, être réincorporé à l'Église notre mère ? Et sur les ardentes prières du maréchal, ils le relevèrent de toute excommunication et l'admirent à participer au sacrement. La justice de Dieu était faite, le crime était reconnu, puni, mais effacé par la contrition et la pénitence. La justice humaine demeurait seule. L'évêque et l'inquisiteur remirent le coupable à la cour séculière, qui, retenant les captures d'enfants et les meurtres, prononça la peine de mort et la confiscation des biens. Prélati, les autres complices furent en même temps condamnés à être pendus et brûlés vifs. « Criez à Dieu merci, dit Pierre de l'Hospital, qui présidait les débats civils, et disposez-vous à mourir en bon état, avec un grand repentir d'avoir commis de tels crimes. » Cette recommandation était inutile. Gilles envisageait maintenant le supplice sans aucun effroi. Il espérait humblement, avidement, en la miséricorde du Sauveur, l'expiation terrestre, le bûcher. Il l'appelait de toutes ses forces pour se rédimer des flammes éternelles après sa mort. Loin de ses châteaux, dans sa geôle, seul, il s'était ouvert et il avait visité ce cloaque qu'avait si longtemps alimenté les eaux résiduaires échappées des abattoirs de Tiffauges et de Machecoul. Il avait erré, sangloté, sur ses propres rives, désespérant de pouvoir jamais étancher l'amas de ses effrayantes boues. Et, foudroyé par la grâce, dans un cri d'horreur et de joie, il s'était subitement renversé l'âme. Il l'avait lavé de ses pleurs, séché au feu des prières torrentielles, aux flammes des élans fous. Le boucher de Sodome s'était renié, le compagnon de Jeanne d'Arc avait reparu. Le mystique dont l'âme s'essorait jusqu'à Dieu dans des balbuties d'adoration, dans des flots de larmes. Puis il pensa à ses amis, voulut qu'eux aussi mourussent en état de grâce. Il demanda à l'évêque de Nantes qu'ils ne fussent pas exécutés avant ou après, mais en même temps que lui. Il fit valoir qu'il était le plus coupable, qu'il devait les avertir de leur salut, les assister au moment où ils monteraient sur le bûcher. Jean de Malestroit accueillit cette supplique. Ce qui est curieux, se dit Durtal, en s'interrompant d'écrire pour allumer une cigarette, c'est que on sonna doucement. Madame Chanteloup entra. Elle déclara qu'elle ne restait que 2 minutes, qu'elle avait une voiture en bas. C'est pour ce soir, dit-elle. Je viendrai vous prendre à 9 heures. Écrivez-moi d'abord une lettre à peu près conçue dans ces termes, et elle lui remit un papier qu'il déplia. Il contenait simplement cette attestation. J'avoue que tout ce que j'ai dit et écrit sur la messe noire, sur le prêtre qui la célèbre, sur le lieu où j'ai prétendu y assister, sur les soi-disant personnes que j'y trouvais, est de pure invention. J'affirme que j'ai imaginé tous ces récits, que par conséquent, tout ce que j'ai raconté est faux. C'est de Docre, dit-il, regardant une petite écriture pointue et retorse, presque agressive. Oui, et il veut en outre que cette déclaration, non datée, soit faite sous forme de lettre adressée à une personne qui vous aurait consulté à ce sujet. Il se défie donc bien de moi, votre chanoine. Dame, vous faites des livres. Ça ne me plaît pas infiniment de signer cela, murmura Durtal, et si je refuse, vous n'assisterez pas à la messe noire. La curiosité fut plus vive que ses répugnances. Il rédigea et signa la lettre que Madame Chantelouve mit dans son porte-carte. Et dans quelle rue cette cérémonie se passe-t-elle? Dans la rue Olivier de Serres.
Où est-ce?
Près de la rue Vaugirard, tout en haut.
Et c'est là que demeure Docre?
Non, nous allons dans une maison particulière qui appartient à l'une de ses amies. Sur ce, si vous le voulez bien, vous reprendrez votre interrogatoire à un autre instant, car je suis pressé et je me sauve. À 9 heures, n'est-ce pas? Soyez prêts. Il eut à peine le temps de l'embrasser, elle était partie. Enfin, se dit-il lorsqu'il fut seul, j'avais déjà des renseignements sur l'incubat et l'envoûtement, il ne me restait plus à connaître que la messe noire pour être tout à fait au courant du satanisme, tel qu'il se pratique de nos jours, et je vais la voir. Je veux bien être pendu si je soupçonnais que Paris recèle là des dessous pareils. Et comme les choses s'attirent et se lient, il fallait que je m'occupasse de Gilles de Rais et du diabolisme au Moyen-Âge pour que le diabolisme contemporain me fût montré. Et il repensa à Docre et il se dit « Quelle finaude crapule que ce prêtre !» Au fond, parmi ces occultistes qui grouillent aujourd'hui dans la décomposition des idées d'un temps, celui-là est le seul qui m'intéresse. Les autres, les mages, les théosophes, les kabbalistes, les spirites, les hermétistes, les rose-croix, me font l'effet, lorsqu'ils ne sont pas de simples larrons, d'enfants qui jouent et se chamaillent en trébuchant dans une cave. Et si l'on descend plus bas encore, dans les officines des pythonisses, des voyantes et des sorciers, que trouve-t-on sinon des agences de prostitution et de chantage? Tous ces soi-disant débitants d'avenir sont fort malpropres. C'est la seule chose dans l'occulte dont on soit sûr. Deshermies interrompit par un coup de sonnette ses réflexions. Il venait annoncer à Durtal que Gévinger était de retour et qu'ils devaient dîner ensemble le surlendemain chez Carex. Sa bronchite est donc guérie?
Oui, complètement.
Préoccupé de l'idée de la messe noire, Durtal ne put se taire et il avoua que le soir même, il devait y assister et devant la mine stupéfaite de Deshermies, il ajouta qu'il avait promis le secret et qu'il ne pouvait pour l'instant lui raconter davantage.
« Matin, tu as de la chance, toi, » fit Deshermies.
« Est-ce indiscret de te demander le nom de l'abbé qui présidera à cet office ?»«
Non, c'est le chanoine Docre. »
« Ah !» Et l'autre se tut. Il cherchait évidemment à deviner à l'aide de quelle manigance son ami avait pu joindre ce prêtre. « Tu m'as autrefois narré, » reprit Durtal, « qu'au Moyen-Âge, la messe noire se disait sur la croupe nue d'une femme, qu'au XVIIe siècle, elle se célébrait sur le ventre. Et maintenant ?»«
Je crois qu'elle a lieu comme à l'église, devant un autel. Du reste, à la fin du XVe siècle, elle s'est quelquefois débitée ainsi, dans les Biscayes. Il est vrai que le diable opérait alors en personne. » Revêtu d'habits épiscopaux, déchiré et souillé, il communiait avec des rondelles de savate, criant « Ceci est mon corps !» et il donnait à mâcher ces dégoûtantes espèces aux fidèles qui lui avaient préalablement baisé la main gauche, le quart et le croupion. J'espère que tu ne seras pas obligé de rendre d'aussi bas hommage à ton chanoine. Durtal se mit à rire. « Non, je ne pense pas qu'il exige de telles prébendes. Mais voyons, tu ne juges point que décidément les êtres qui, pieusement, ignoblement, suivent ces offices sont un peu fous ?»«
Fous ? Et pourquoi ?
Le culte du démon n'est pas plus insane que celui de Dieu. L'un purule et l'autre resplendit, voilà tout.
À ce compte-là, tous les gens qui implorent une divinité quelconque seraient démons.
Non, les affiliés du satanisme sont des mystiques, d'un ordre immonde, mais ce sont des mystiques. » Maintenant, il est fort probable que leurs élans vers l'au-delà du mal coïncident avec des tribulations enragées des sens, car la luxure est la goutte mère du démonisme. La médecine classe tant bien que mal cette fin de l'ordure dans les districts inconnus de la névrose, et elle le peut car personne ne sait au juste ce qu'est cette maladie dont tout le monde souffre. Il est bien certain en effet que les nerfs vacillent dans ce siècle plus aisément qu'autrefois au moindre choc.
Tiens, rappelle-toi les détails donnés par les journaux sur l'exécution des condamnés à mort. Ils nous révèlent que le bourreau travaillait avec timidité, qu'il est sur le point de s'évanouir, qu'il a mal au nerf lorsqu'il décapite un homme. Quelle misère! Lorsqu'on le compare au invincible tortionnaire du vieux temps. Cela vous enfermait la jambe dans un bas de parchemin mouillé qui se rétractait devant le feu et en vous broyait doucement les chairs, ou bien il vous enfonçait des coins dans les cuisses et brisait les os,
Ils vous cassaient les pouces des mains dans des étaux à vis, vous découpaient des lanières d'épiderme dans le râble, vous retroussaient comme un tablier la peau du ventre. Ils vous écartelaient, vous estrapadaient, vous rôtissaient, vous arrosaient de brandevin de vin en flamme, avec une face impassible, des nerfs tranquilles. Qu'aucun cri, qu'aucune plainte n'ébranlait. Ces exercices étaient un peu fatigants. Ils avaient seulement, après l'opération, bonne soif et grande faim. C'étaient des sanguins bien équilibrés, tandis que maintenant. Mais pour en revenir à tes compagnons de sacrilège ce soir, s'ils ne sont pas des fous, ce sont à n'en point douter de très répugnants paillards. Observe-les. Je suis sûr qu'en invoquant Belzébuth, ils pensent aux prélibations charnelles. N'aie pas peur, va. Il n'y a point dans ce groupe des gens qui imiteraient ce martyr dont parle Jacques de Voragine dans son histoire de saint Paul l'ermite. Tu connais cette légende ?
Non.
Eh bien, pour te rafraîchir l'âme, je vais te la conter. Ce martyr qui était tout jeune fut étendu pieds et poings liés sur un lit, puis on lui dépêcha une superbe créature qui le voulut forcer. Comme il ardait et qu'il allait pêcher, il se coupa la langue avec les dents et il la cracha au visage de cette femme, et ainsi la douleur en chassa la tentation, dit le bon de Voragine. Mon héroïsme n'ira pas jusque-là, je l'avoue.
Mais tu t'en vas déjà ?
Oui, je suis attendu. Quelle bizarre époque, reprit Durtal en le reconduisant. C'est juste au moment où le positivisme bat son plein que le mysticisme s'éveille et que les folies de l'occulte commencent. Mais il en a toujours été ainsi, les queues de siècle se ressemblent, toutes vacillent et toutes sont troubles alors que le matérialisme sévit, la magie se lève. Ce phénomène reparaît tous les 100 ans, pour ne pas remonter plus haut, voit le déclin du dernier siècle. À côté des rationalistes et des athées, tu trouves Saint-Germain, Cagliostro, Saint-Martin, Gabalis, Cazotte, les sociétés des Rose-Croix, les cercles infernaux, comme maintenant. Sur ce, adieu, bonne soirée et bonne chance. Oui, mais se dit Durtal en refermant la porte, les Cagliostro avaient au moins une certaine allure et probablement aussi une certaine science, tandis que les mages de ce temps, quels aliborons et quels camelots.